Le journal de George Fox 1656-1657 en route pour l'Écosse page 1-3 Après y avoir séjourné 2 ou 3 jours, nous arrivâmes chez Thomas Mounts, où nous eûmes une assemblée générale pour tout le comté, qui, étant très nombreuse, se tint dans son verger. Des amis de Plymouth s'y trouvèrent, ainsi que de beaucoup d'autres lieux. La puissance du Seigneur était sur tous, et il y eut une grande conviction dans de nombreuses parties du comté. Leur vigilance était tombée, et tout se faisait sans obstacle et avec ouverture, car le Seigneur m'avait fait voir, avant même que je fusse remis en liberté, qu'il rendrait tout le pays sans obstacle devant nous. Thomas et Anne Curti, avec un échevin de Reading qui avait été convaincu, étaient venus à Launceston pour nous voir pendant que j'étais prisonnier, et lorsque Anne et l'autre homme repartirent, Thomas Curti resta en Cornouailles et rendit alors un bon service au Seigneur. De chez Thomas Mounts, nous repassâmes à Launceston et rendîmes visite aux petits restes d'amis qui s'y étaient levés pendant que nous étions en prison, et les plans du Seigneur croissaient bien et s'affermissaient sur Christ, leur rocher et leur fondement. Comme nous sortions de la ville de nouveau, le constable de Launceston accourut vers nous avec le fromage qui avait été pris à Edward Pio, il nous l'avait gardé tout ce temps et en était tourmenté. Mais maintenant que nous étions libres, nous ne voulûmes pas le recevoir. De Launceston nous vîmes à Oakington et passâmes la nuit dans une auberge tenue par le maire de la ville. Il avait arrêté et fait emprisonner plusieurs amis, mais se montra très courtois envers nous, et il fut convaincu dans son jugement. De là, nous traversâmes la campagne jusqu'à Exeter, et le premier jour, nous allâmes en prison visiter les prisonniers. Mais la nuit précédente, j'avais fait chercher James Naylor, car je voyais qu'il était sorti hors de l'unité de l'esprit. Le lendemain, nous allâmes à la prison pour tenir une réunion. Je vis que lui et sa compagnie étaient dans l'erreur et je l'exhortai. Comme le lien le montrera, Naylor avait été auparavant instruit, par une lettre, de renier son groupe d'amis qui l'avait conduit à son agitation. Naylor avait gravement failli, avant son emprisonnement et les actions scandaleuses qui s'ensuivirent. James Naylor était en prison parce que, peu avant que nous soyons remis en liberté, James s'était laissé emporter par des imaginations avec une compagnie d'autres amis, et ils avaient créé un immense nuage de ténèbres dans la nation. Il vint à Bristol et y causa du trouble. De là, il venait à Launceston pour me voir, mais il fut arrêté en chemin et emprisonné à Exeter, comme le furent aussi plusieurs autres qui venaient me voir, dont l'un, homme honnête et sensible, mourut dans cette prison, et son sang est sur la tête de ses persécuteurs. La nuit de notre arrivée à Exeter, je parlai avec James Naylor, car je voyais qu'il était sorti de l'esprit et de la vérité et dans l'erreur, lui et sa compagnie. Le lendemain, étant premier jour, nous allâmes visiter les prisonniers et eûmes une réunion avec eux dans la prison. Mais James Naylor et certains d'entre eux ne pouvaient rester à la réunion que s'ils pouvaient garder leur chapeau pendant que je priais. Lui et ses amis furent les premiers à donner ce mauvais exemple aux amis. Il y avait tout un groupe d'amis, menés par Naylor et John Perrault, qui s'étaient d'abord séparés sur la base de leur croyance erronée qu'il ne s'agissait que d'une coutume extérieure et qu'ils n'avaient pas besoin d'ôter leur chapeau pour montrer du respect à Dieu. Fox dut écrire une lettre à toutes les assemblées pour montrer à quel point c'était ridicule, mais la question du chapeau n'était qu'une irritation mineure, comparée aux troubles ultérieurs causés par Naylor. Un caporal de cavalerie entra dans la réunion, il fut convaincu et demeura un très bon ami. Le lendemain, je parlai de nouveau à James Naylor, et il dédaigna ce que je disais, et il était dans les ténèbres, et très éloigné du véritable esprit, pourtant il aurait voulu venir m'embrasser. Mais je dis, puisqu'il s'est tourné contre la puissance de Dieu, je ne puis recevoir sa bonté. Astérisque, ainsi le Seigneur me poussa à le traiter avec dédain et à mettre la puissance de Dieu au-dessus de lui. Ainsi, après avoir combattu le monde, il y avait maintenant un esprit méchant qui s'était levé parmi les amis pour faire la guerre. Je l'exhortai, lui et sa compagnie. Astérisque, commentaire de l'éditeur du site, dans le journal original, Journal de Cambridge, c'était « me foot » mon pied au lieu de « je ne pouvais recevoir sa bonté », l'expression « me foot ». Est un idiome familier anglais signifiant, pas du tout, une exclamation dédaigneuse de dénégation ou de rejet. J'ai grandi en utilisant cette même expression dans les années 1960 et elle est attestée sur le web comme un vieil idiome anglais. Naylor voulait embrasser l'homme dont il venait d'ignorer le second avertissement sévère, c'est comme Judas voulant embrasser Jésus la nuit où il le trahit. Un tel baiser venant de quelqu'un qui est dans l'erreur n'est qu'une tentative d'adoucir le différend sans reconnaître sa faute, en essayant de faire paraître pire celui qui le reprend que lui-même. Fox avait raison de dédaigner sa bonté. Fox avait déjà averti Naylor une fois par lettre au sujet de ses associés, et deux fois de plus en prison qu'il était sorti de l'Esprit de Dieu. Quand Naylor fut plus tard libéré d'Exeter, les véritables ennuis commencèrent lorsque Naylor et ses amis approchèrent de Bristol, dans une réplique grotesque et honteuse de l'entrée du Christ à Jérusalem. Les adversaires du mouvement Quaker saisirent cette faute de jugement de Naylor et s'en servirent comme prétexte pour dénigrer et persécuter massivement les Quakers dans tout le pays. Lorsque Naylor partit pour Londres, il résista à la puissance de Dieu en moi et à la vérité que je lui avais déclarée, cela devint l'un de ses plus grands fardeaux. Tiré de Friend Library, Vol. XI 1847, page 338. Un avertissement très fort, tiré de la collection de manuscrits de W. Caton à Swarthmore. Parmi la collection de lettres de Swarthmore, on a trouvé l'adresse suivante de George Fox à James Nalley vers cette époque. Elle est annotée par George Fox ainsi, GFF to James Nalley 1656. Et au bas figure un mémorandum dans la même écriture que celle de la lettre, à savoir, ceci est une copie de la lettre trouvée en sa possession lorsqu'il fut interrogé. James, tu dois porter ton propre fardeau et celui de ta compagnie avec toi, dont l'iniquité augmente, et par toi elle n'est pas dénoncée. Tu as satisfait le monde, oui, leur désir qu'ils attendaient. Toi et tes disciples, et le monde est uni contre la vérité, cela se manifeste par ta volonté propre et ton entêtement, et ceci est la parole du Seigneur Dieu pour toi. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce que tu fusses un encourageur de tels gens, comme ceux qui crient contre la puissance et la vie de la vérité, mais tu aurais dû être un nourricier de la vérité, et tu n'aurais pas dû former une compagnie contre elle. Et qu'est-ce donc qui accomplit la prophétie du monde et leurs désirs? Considère donc et examine-toi, si cela est innocence. La lumière de Dieu en vous tous, je la reconnais, mais ceci je le juge. George Fox pour James N. C'est mais il finit par voir son erreur d'être sorti, et à la condamner, et après quelque temps il se repentit, comme on peut le voir plus pleinement dans le récit imprimé de sa repentance, de sa condamnation et de son rétablissement. Cliquez pour en savoir plus sur Naylor. Retour au journal de Fox, James Naylor était un monument de la fragilité humaine. Son don dans le ministère était éminent, son expérience des choses divines, véritablement grande. Il tomba pour avoir relâché sa garde vigilante contre les esprits trompeurs, mais fut restauré par de profondes souffrances et une repentance sincère. Ses propres écrits sont la description la plus claire et la plus vivante des diverses dispensations qu'il traversa. Certains méritent d'être transmis à la postérité la plus lointaine. Commentaire de l'éditeur du site, le paragraphe ci-dessus n'apparaît pas dans le journal manuscrit de Fox, vraisemblablement ajouté par Fox dans ses longues discussions avec Elwood, l'éditeur, à Swarthmore avant sa mort. Bien que les actions de Naylor aient entraîné d'immenses persécutions des Quakers, Fox a ainsi consigné son pardon chrétien à l'égard de Naylor et recommande même ses écrits à la postérité. Pourtant, en 2006, on entend encore cette fausse accusation de la part de critiques modernes de Fox. Fox n'a jamais pardonné à James Naylor son erreur. De plus, Dewsbury rapporte qu'il a organisé et assisté à une réunion de réconciliation entre Fox et Naylor, avec Edward Burroughs et Francis Haugill. Dewsbury écrit au sujet de la réunion, « Le Seigneur me le mit fortement à cœur, afin que cher George Fox et James Naylor puissent se rencontrer. Mon travail fut grand en esprit jusqu'à ce que le Seigneur réponde, ce qui, au jour qu'il détermina, se fit. Puissante fut sa celle du Seigneur Majesté parmi son peuple, le jour où il répara la brèche, qui avait été si longtemps, à la tristesse du cœur de plusieurs. Le Seigneur revêtit mes chers frères, George Fox, Edward Burroughs, Francis Haugill, d'une précieuse sagesse. Son esprit guérisseur abonda en eux, ainsi que dans le reste du peuple du Seigneur présent ce jour-là, et selon leur mesure de l'Esprit du Seigneur en tout, tous furent amenés à l'embrasser avec joie de cœur. » La mort du Quaker des débuts, James Naylor, semble être l'exemple classique d'une protection retirée en raison d'une désobéissance volontaire après avoir atteint le premier stade de perfection. James Naylor était un éminent prédicateur Quaker des débuts qui, apparemment, avait atteint le premier stade de perfection. Cependant, hélas, il relâcha sa vigilance et refusa l'injonction écrite de la société, ainsi que les avertissements écrits et donnés en personne par George Fox, de se dissocier d'un groupe d'admirateurs serviles qui était sorti de la vérité. Par écrit, Fox l'avertit, au nom de la parole du Seigneur, qu'il était « contre la vérité par volonté propre et entêtement ». Peu après, Naylor déclencha un grand scandale, qui aboutit à ce qu'il subisse un châtiment sévère et l'emprisonnement. Alors qu'il rentrait chez lui, il fut battu, dépouillé, laissé ligoté et nu dans un champ, trouvé par un passant et conduit chez un médecin Quaker où il mourut un jour plus tard à l'âge de 43 ans. Ces événements sont détaillés dans la page web sur James Naylor. Tandis que je repassais dans mon esprit l'échec de James Naylor, j'entendis au-dedans la parole du Seigneur dire « Volonté propre stupéfiante, en rendant visite à des amis, nous passâmes d'exété par Culimpton et Tonton et eûmes des réunions parmi eux. De là nous vîmes à Podimo, chez William Beaton, où, un premier jour, nous eûmes une très grande réunion. car une grande conviction s'était produite dans tout le pays. Nous eûmes beaucoup de réunions, et la puissance du Seigneur était sur chacun. Beaucoup furent tournés par la puissance et l'Esprit de Dieu vers le Seigneur Jésus-Christ, qui était mort pour eux et qui venait les faire s'asseoir sous son enseignement gratuit. De là nous allâmes chez John Dandy, où nous eûmes une autre précieuse réunion. La puissance du Seigneur était sur tous et beaucoup furent convaincus de la vérité éternelle de Dieu. Une certaine opposition fut soulevée en quelques lieux par des professants et des baptistes, mais la puissance du Seigneur vint sur eux. De là nous vîmes chez Edward Pio près de Bristol. C'était le septième jour au soir quand nous arrivâmes. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la ville que j'étais venue, car je n'y avais jamais été auparavant. Le matin du premier jour, je me rendis à la réunion de Broadmead à Bristol, qui était grande et paisible. On annonça une réunion à tenir dans le verger l'après-midi. Il y avait à Bristol un baptiste grossier nommé Paul Gouin, qui avait auparavant causé de grands troubles dans nos réunions. On rapporta que Paul Gouin était encouragé par le maire, qui parfois lui donnait même à dîner pour l'encourager. Il rassemblait avec lui de telles multitudes de gens grossiers que l'on aurait dit qu'il y avait eu 10 000 personnes à notre réunion dans le verger. Comme j'entrais dans le verger, les gens me dirent que Paul Gouin, le baptiste grossier et Crayler se rendaient à la réunion. Je leur dis, « Ne vous inquiétez pas, peu m'importait qui venait à la réunion. » Quand j'entrai dans le verger, je montai sur la pierre sur laquelle les amis avaient coutume de se tenir pour parler, et le Seigneur me poussa à ôter mon chapeau et à rester longtemps debout, laissant les gens me regarder, car plusieurs milliers de personnes étaient là. Tandis que je restais silencieux, ce baptiste grossier commença à critiquer mes cheveux, mais je ne lui répondis rien. Puis il se lança dans des paroles, et enfin dit, « Vous, homme sage de Bristol, je suis choqué que vous restiez ici à entendre un homme parler et affirmer ce qu'il ne peut justifier. » Alors le Seigneur m'ouvrit la bouche, car je n'avais pas encore dit un mot, et je demandai aux gens s'ils m'avaient jamais entendu parler ou m'avaient jamais vu auparavant, et je leur dis, « Remarquez quel genre d'homme c'était, qui pouvait, avec une telle impudence, dire parmi vous que je parlais et affirmais ce que je ne pouvais justifier, alors que ni lui ni vous ne m'aviez jamais entendu ni vu auparavant. » Ainsi c'était un esprit menteur, envieux et malveillant qui parlait en lui, et c'était du diable, et non de Dieu. Je l'adjurai, dans la crainte et la puissance du Seigneur, de se taire, et la puissante puissance de Dieu vint sur lui et sur toute sa compagnie. Nous eûmes une réunion glorieuse et paisible, la parole de vie fut partagée parmi eux, et ils furent tournés des ténèbres à la lumière, et vers Jésus leur Sauveur. Les Écritures leur furent largement ouvertes, et les traditions rudiments, voies et doctrines des hommes furent dévoilées devant le peuple, et ils furent tournés vers la lumière du Christ, afin qu'avec elle ils puissent les voir et le voir, lui, pour les en faire sortir. Je leur ouvris aussi les types, figures et ombres du Christ au temps de la loi, et je leur montrai que le Christ était venu, qu'il avait mis fin aux types, aux ombres, aux dîmes et aux serments, qu'il avait aboli les jurons, et avait établi à leur place le oui et le non, ainsi qu'un ministère gratuit, car il était maintenant venu enseigner lui-même le peuple, et son jour céleste se levait d'en haut. Pendant de nombreuses heures, je déclarai parmi eux la parole de vie dans la puissance éternelle de Dieu, afin que par lui, ils puissent remonter jusqu'au commencement et être réconciliés avec lui. Et les ayant tournés vers l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, qui conduit dans toute la vérité, je fus poussé à prier dans la puissante puissance de Dieu, et la puissance du Seigneur vint sur eux tous. Quand j'eus fini, Gouin se remit à bredouiller, et John Odlan fut poussé à lui dire de se repentir et de craindre Dieu. Puisque ses propres gens et ses partisans avaient honte de lui, il s'en alla et ne revint jamais troubler la réunion. La réunion se termina paisiblement, et la puissance et la gloire du Seigneur resplendirent sur tous. Ce fut un jour béni, et le Seigneur en eut la louange. Quelque temps après, ce Paul Gouin passa au-delà des mers, et bien des années plus tard, je le rencontrai de nouveau à la Barbade, ce que je raconterai en son lieu chronologique. De Bristol, nous retournâmes chez Edward Pio, où nous eûmes une grande réunion. La puissance du Seigneur était sur tous, la vérité fut déclarée et se répandit au loin, et beaucoup furent tournés vers Christ Jésus, leur vie, leur prophète pour les enseigner, leur berger pour les nourrir, et leur évêque pour veiller sur eux. Après la réunion, je discutai avec quelques professants, et la vérité et la puissance du Seigneur vinrent sur eux. De chez Edward Pio, nous passâmes à Slatanford, où nous eûmes une très grande réunion, Edward Pio et un autre ami étant encore avec moi, et il y eut un grand retournement des gens vers le Seigneur Jésus, leur enseignant. Les gens étaient heureux d'être amenés à connaître leur voix, leur enseignant gratuit et leur Sauveur, Christ Jésus. Le premier jour suivant, nous allâmes à la maison de Nathaniel Cripp, qui avait été juge de paix dans le Wiltshire. On estima qu'il y avait entre 2 000 et 3 000 personnes à la réunion, et tout fut paisible. La puissante puissance de Dieu fut manifestée, et les gens furent tournés vers la grâce et la vérité dans leur cœur, grâce et vérité venues par Jésus-Christ, qui qui leur enseignerait à renoncer à toute impiété et aux convoitises du monde, et à vivre sobrement et pieusement dans le présent siècle. Ainsi chaque homme et chaque femme pouvait connaître la grâce de Dieu, qui est apparue à tous les hommes, une grâce salvatrice et suffisante pour conduire au salut. Cet enseignant, la grâce de Dieu, leur apprendrait comment vivre, que faire et à quoi renoncer, elle assaisonnerait leurs paroles et affermirait leur cœur. C'était un enseignant gratuit pour chacun d'eux, afin qu'ils puissent devenir héritiers de cette grâce et du Christ par qui elle est venue, lui qui a mis fin aux prophètes et aux prêtres qui prenaient les dîmes, ainsi qu'au temple juif. Et quant à ces prêtres mercenaires qui prennent aujourd'hui les dîmes, et à leur temple, prêtres formés dans des écoles et collèges établis par les hommes, et non par le Christ, eux, avec toutes leurs inventions, devaient être rejetés. Après que le Christ eut mis fin au sacerdoce lévitique et au temple, les apôtres les rejetèrent. Ainsi les Écritures et les vérités qu'elles contiennent furent largement ouvertes, et les gens furent tournés vers l'Esprit de Dieu dans leur cœur, afin que, par lui, ils soient conduits dans toute la vérité, comprennent les Écritures, connaissent Dieu et le Christ, et parviennent à l'unité avec eux, et les uns avec les autres dans le même esprit. Les gens repartirent généralement satisfaits et heureux d'avoir été tournés vers Christ Jésus, leur enseignant et sauveur. Le lendemain, nous allâmes à Marlborough, où nous eûmes une petite réunion. Les assises se tenant ce jour-là, ils étaient en train de délivrer un mandat pour me faire venir, mais l'un des juges de l'assise nommé Stokes les en empêcha, leur disant qu'il y avait eu hier une réunion chez lui à laquelle plusieurs milliers avaient assisté. Ainsi le mandat fut arrêté, et notre réunion fut paisible, et plusieurs reçurent Christ Jésus leur enseignant, et entrèrent dans la nouvelle alliance et y vécurent. De là nous allâmes à Newbury, où nous eûmes une grande réunion bénie, plusieurs furent convaincus. De là nous passâmes à Reading, où nous eûmes une grande et précieuse réunion dans la puissance du Seigneur parmi les plans de Dieu. Beaucoup d'autres professions vinrent, furent touchées et se joignirent à la réunion. Tout fut paisible, et la puissance du Seigneur était sur tous. De Reading, nous allâmes à Kingston-upon-Thames, où quelques-uns vinrent à nous qui avaient été tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, mais depuis, c'est devenu une grande réunion. En quittant Kingston, nous chevauchâmes vers Londres. Quand nous approchâmes de Hyde Park, nous vîmes une grande foule de gens, et en regardant vers eux, nous vîmes le protecteur venir dans son carrosse. Je m'approchai donc du carrosse à cheval. Certains de ses gardes du corps voulurent me repousser, mais il le leur défendit. Je chevauchai donc à côté de son carrosse avec lui, déclarant ce que le Seigneur me donnait à lui dire sur son état et sur les souffrances des amis dans la nation, lui montrant combien cette persécution était contraire au Christ et à ses apôtres, et au christianisme. Je lui dis que ceux qui voulaient lui mettre une couronne lui ôteraient la vie. Il me demanda ce que j'avais dit, je répétai que ceux qui voudraient lui mettre une couronne sur la tête lui ôteraient la vie, et je lui dis de penser à la couronne immortelle. Il me remercia. Quand nous arrivâmes à la porte de St. James's Park, je le quittai, et en nous séparant, il me pria de venir chez lui. Le lendemain, une des femmes de chambre de son épouse, nommée Mary Sandé, vint à mon logement et me dit que son maître était venu vers elle et avait dit qu'il avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Lorsqu'elle lui demanda laquelle, il lui dit « George Fox est venu en ville ». Elle répondit que c'était en effet une bonne nouvelle, car elle avait reçu la vérité, mais qu'elle avait peine à le croire, jusqu'à ce qu'il lui raconte comment je l'avais rencontré et avais chevauché avec lui de Hyde Park à St. James's Park. Peu après, Edward Pio et moi allâmes à Whitehall, et quand nous fûmes devant Cromwell, le D.R. Owen, vice-chancelier d'Oxford, était avec lui. Nous fûmes poussés à parler à Oliver Cromwell des souffrances des amis et à les lui exposer, et nous l'orientâmes vers la lumière du Christ, qui avait éclairé tout homme venant au monde. Il dit que c'était une lumière naturelle, astérisque, mais nous lui montrâmes le contraire, et nous manifestâmes qu'elle était divine et spirituelle, procédant du Christ, l'homme spirituel et céleste, et que ce qui était appelé la vie en Christ, la parole, était appelé la lumière en nous. La puissance du Seigneur Dieu se leva en moi, et j'y fus poussé à lui dire de déposer sa couronne aux pieds de Jésus, plusieurs fois je lui parlais dans le même sens. J'étais debout près de la table, et il vint s'asseoir sur le bord de la table près de moi, disant qu'il serait aussi haut que moi, et il continua ainsi à parler contre la lumière de Christ Jésus, et s'en alla d'un air léger. Mais la puissance du Seigneur vint sur lui, si bien que lorsqu'il rejoignit sa femme et d'autres personnes, il dit « Je ne me suis jamais séparé d'eux ainsi auparavant, car il fut jugé en lui-même. » Astérisque commentaire de l'éditeur du site, parce que Cromwell et les faux prophètes n'ont jamais fait l'expérience de la révélation par la lumière de Dieu, ils soutiennent que les références bibliques à la lumière parlent d'une lumière naturelle, mais la Bible distingue clairement la lumière naturelle du soleil et de la lune, et la lumière de Dieu du Christ, « Je ne vis point de temple dans la ville. » Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple, et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est sa lampe. et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière, Apocalypse 21:22-24. Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, la lune ne t'éclairera plus par sa clarté, mais l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ézéchiel 79. Oui, les ténèbres ne te cachent rien, et la nuit brille comme le jour, les ténèbres et la lumière sont pareilles pour toi. PS 139, 12 pour recevoir les révélations de Dieu, par sa voix et sa lumière, il faut d'abord se repentir de toutes les mauvaises pratiques dont on est capable, cesser d'enseigner, se tenir tranquille avec humilité et écouter en silence en attendant Dieu. Quels que soient les commandements entendus qui sont moraux, pleinement et clairement compris, il faut ensuite y obéir. Lire la Bible et prier ne remplace pas l'écoute silencieuse de la parole de Dieu au-dedans de ton cœur, afin qu'elle te parle. Jésus a dit, c'est la seule chose nécessaire. Après qu'il nous eut quittés, alors que nous sortions, beaucoup de ses officiers de cour vinrent autour de nous, l'un d'eux se mit à parler contre la lumière et contre la vérité, et il me fut dit de le traiter avec dédain, pour avoir parlé si légèrement des choses de Dieu. Alors l'un d'eux me dit qu'il était major général du Northamptonshire. Quoi, dis-je, notre vieux persécuteur, celui qui a persécuté et fait mettre tant de nos amis en prison, et qui est une honte pour le christianisme et la religion, je suis content de vous avoir rencontré. Je fus alors poussé à lui parler durement de sa conduite non chrétienne, et il s'éclipsa, car il avait été un persécuteur cruel dans le Northamptonshire. Après avoir visité les réunions des amis à Londres et aux alentours, j'allais dans le Buckinghamshire, et Edward Pio était avec moi, et en plusieurs endroits de ce comté, beaucoup reçurent la vérité. Nous eûmes de grandes réunions, et la puissance du Seigneur se manifesta éminemment. Je passai par le Northamptonshire et le Nottinghamshire jusqu'au Lincolnshire. Après plusieurs réunions dans le Lincolnshire, j'eus enfin une réunion où deux chevaliers, l'un nommé Sir Richard Way, l'autre Sir John Way, avec leurs épouses étaient présents. L'une de leurs femmes fut convaincue, reçut la vérité et y mourut. Quand la réunion fut terminée, nous partîmes, et comme c'était le soir, et qu'il faisait sombre, une bande de domestiques grossiers et sauvages nous encercla, dont je vis qu'ils avaient l'intention de me faire du mal. Mais je leur parlai à haute voix et demandai, « Quoi, êtes-vous des voleurs ?» À ce moment, quelques amis et des gens amicaux qui suivaient nous rejoignirent et en reconnurent certains. Je les repris donc pour leur conduite incivile et grossière, les exhortai à craindre Dieu, et la puissance du Seigneur vint sur eux et arrêta leurs desseins malveillants, béni soit son nom à jamais. Puis je me rendis dans le Huntingdonshire. Le maire de Huntingdon vint me visiter, et se montra très affectueux, et sa femme reçut la vérité. De là, je passai dans le Cambridgeshire et dans le pays des Fens, où j'eus beaucoup de réunions, et la vérité du Seigneur se répandit. Robert Craven, qui avait été shérif du Lincoln, Amor Stoddard et Alexander Pock étaient avec moi. Nous allâmes à Crowland, un endroit très grossier, car les gens du bourg s'étaient rassemblés à l'auberge où nous allions, et étaient à moitié ivres, le prêtre comme le peuple. Je les repris pour leur ivrognerie et les avertis du jour du Seigneur qui allait venir sur tous les méchants, les exhortant à abandonner leur ivrognerie et à se tourner vers le Seigneur à temps. Tandis que je leur parlais et montrais au prêtre les fruits de son ministère, le prêtre et le clerc éclatèrent de rage et se mirent à brandir contre nous les tenailles et la pelle à feu. Si bien que, sans la protection de la puissance du Seigneur, nous aurions pu être assassinés parmi eux. Pourtant, malgré toute leur grossièreté et leur violence, quelques-uns reçurent alors la vérité, et s'y sont tenus depuis. De là, nous passâmes à Boston, où la plupart des principaux de la ville vinrent à notre auberge, et les gens semblaient très satisfaits. Mais il y avait un homme furieux dans la cour, et Robert Craven fut poussé à lui parler, et lui dit qu'il faisait honte au christianisme, ce qui, avec quelques autres paroles, calma tellement l'homme qu'il s'en alla tranquillement. Quelques-uns furent aussi convaincus là. Ainsi nous eûmes de grandes réunions tout autour, car je voyageai jusqu'au Yorkshire, puis revins en passant par Holderness franchissant le Humber, en visitant les amis, puis allant dans le Leicestershire, le Staffordshire, le Worcestershire et le Warwickshire parmi les amis. J'eus une réunion à Edge Hill. Des rentés, des baptistes et diverses sortes de gens grossiers y vinrent, car j'avais fait annoncer environ 3 semaines auparavant qu'il devait y avoir une réunion là, si bien que des centaines de personnes se rassemblèrent, et beaucoup d'amis vinrent de loin. La vérité éternelle du Seigneur et la parole de vie atteignirent tous, les esprits grossiers et indisciplinés furent enchaînés, et beaucoup, ce jour-là, furent tournés vers le Seigneur Jésus-Christ par sa puissance et son esprit, et vinrent s'asseoir sous son bienheureux enseignement gratuit, et être nourris de sa nourriture éternelle et céleste. Tout fut paisible, les gens s'en allèrent tranquillement, et certains dirent que c'était une réunion puissante, car la présence du Seigneur s'y faisait sentir, ainsi que sa puissance et son esprit parmi eux. De là je passai à Warwick, puis à Bagley, où nous eûmes de précieuses réunions. de là dans le Gloucestershire, et ainsi à Oxford astérisque où les étudiants étaient très grossiers, mais la puissance du Seigneur vint sur eux, et nous eûmes de grandes réunions en voyageant dans la région. Puis j'allai chez le colonel Grimm, où il y eut une très grande réunion, et de là chez Nathaniel Cripp, où un autre juge vint à la réunion et fut lui aussi convaincu. À Cirencester aussi, nous eûmes une réunion qui depuis s'est beaucoup accrue. Ainsi nous revînmes encore à Evesham, où je rencontrai John Cam. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, les premiers Quakers qui vinrent à Oxford furent deux femmes, Elizabeth Evans et Elizabeth Fletcher, toutes deux du Nord. C'était en juin 1654. Ces deux femmes parlèrent dans les rues au peuple, et au collège elles exhortèrent les étudiants en théologie, qui, en récompensant méchamment leur zèle, poussèrent violemment Elizabeth Fletcher contre une pierre tombale, puis la jetèrent dans la tombe, et leur malice s'éleva à un tel point qu'ils lièrent ces deux femmes ensemble et les conduisirent sous la pompe. Après les avoir abondamment trempées en pompant de l'eau sur elles, ils les jetèrent dans un fossé boueux, à travers lequel ils traînèrent Elizabeth Fletcher, qui était une jeune femme, et l'abusèrent si cruellement qu'elle resta dans un état douloureux jusqu'à sa mort, survenue peu après. Histoire de Soul, T. I. Pour plus de détails sur les étudiants en théologie barbares à Oxford et Cambridge, voire persécution. Ayant ainsi parcouru la plus grande partie de la nation, je retournai à Londres, car j'étais dégagé de ce que le Seigneur avait mis sur moi. Olive le protecteur commença à s'endurcir, et plusieurs amis furent destitués de leurs fonctions de juge de paix et d'autres charges, et beaucoup furent aussi renvoyés de l'armée. Note, cette lettre expose excellemment la situation d'un prophète moderne parlant la parole de Dieu. À Olive Cromwell et au Parlement, publié par George Fox, à vous qui êtes choisis par ces nations pour être le Parlement, pour diviser, régir et gouverner les choses, ceci est la parole du Seigneur Dieu pour vous. Prenez garde d'agir contre le Christ, là où il est rendu manifeste, montré et révélé. Prenez garde d'agir, de faire quoi que ce soit contre ceux qui sont dans la religion pure, ou de faire quoi que ce soit contre la religion. Ne savez-vous pas que ceci est arrivé pour éprouver si vous agirez ou non contre le Christ, là où il est manifesté dans ses membres? Car il est dit, Christ en vous, et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, et si Christ est en vous, ne peut-il pas parler en justice et être confessé là? Or si Christ n'est pas en vous, notez, si Christ n'est pas en vous, vous êtes réprouvé, le péché vit encore en vous. Et si Jésus-Christ est en vous, ne doit-il pas parler? Notez, Jésus-Christ, l'Emmanuel Dieu avec nous, le Sauveur, est-ce une offense que le Christ parle, que Jésus parle là où il est au-dedans? Examinez-vous donc, ne savez-vous pas que Jésus-Christ est au-dedans de vous, à moins que vous ne soyez réprouvé? Et si Jésus-Christ est en vous, ne doit-il pas parler en vous? N'est-ce pas lui qui doit parler? Car l'homme naturel ne perçoit pas les choses de Dieu, parce qu'elles se discernent spirituellement et qu'elles sont folies pour lui. L'apôtre n'a-t-il pas dit, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, c'était Christ qui vivait en lui, c'était Christ qui parlait en lui. » Notez, si c'était le Christ qui vivait en lui, et si la vie qu'il vivait alors était le Christ vivant en lui, alors la vie qu'il vivait alors était par la foi du Fils de Dieu. Remarquez quelle vie c'était là. Et n'a-t-il pas dit que le Fils de Dieu était révélé en lui? Et si le Fils de Dieu est révélé en quelqu'un, ne doit-il pas parler et déclarer le Père? Depuis les jours des apôtres, les gens ont eu la forme de la piété, mais ils ont manqué des réalités dans lesquelles étaient les apôtres, eux qui avaient le Fils de Dieu, Christ Jésus. C'est pourquoi ce sont ceux qui ont la forme de la piété seulement qui se sont étonnés et émerveillés que Christ soit aux commandes, et qui ne sont pas dans la puissance de Dieu. Eux aussi s'étonnent et s'émerveillent partout où le Christ est manifesté, parle, agit et règne. N'était-ce pas la doctrine des apôtres de prêcher Christ en eux, et de leur dire que l'espérance de la gloire était Christ en eux, ce ministère caché durant des siècles et des générations? Ce Christ, l'espérance de la gloire, n'est-il pas un mystère en ce temps-ci, comme il l'était au jour des apôtres, et l'avait été pour les générations précédentes, depuis les apôtres? Cela n'a-t-il pas été un mystère pour le monde dans ces âges passés, parmi ceux qui avaient la forme de la piété? Mais là où le Christ est au-dedans, ce mystère et cette espérance de gloire sont attestés, et ne doit-on pas le laisser parler sans offense? Le Christ n'a-t-il pas dit qu'il reviendrait vers ses disciples et ferait sa demeure avec eux? Et n'a-t-il pas dit, « Moi en vous, et l'Esprit du Père qui parle en vous ». Ne leur a-t-on pas dit de ne pas se soucier de ce qu'ils auraient à dire lorsqu'ils seraient conduits devant des magistrats et des gouverneurs, afin que ce ne soit pas eux qui parlent, mais l'Esprit du Père et l'Esprit du Christ qui parlent à leur place? L'Esprit du Père n'est-il pas l'Esprit du Christ? Ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ ne sont-ils pas à lui? Prenez donc garde, je suis poussé à vous avertir et à vous enjoindre, en la présence du Seigneur Dieu, vous, gouvernants et magistrats de cette nation, de peur que vous ne soyez trouvés agissant contre l'Esprit du Père, là où il parle en ceux qui sont amenés devant vous, vous qui avez une forme de piété. N'agissez pas contre ceux qui rendent témoignage au Christ en eux et à l'Esprit du Père parlant, et au Fils de Dieu étant venu selon sa promesse, ce que cela atteste comme promesse accomplie en eux. Jean, dans son épître générale, ne dit-il pas que le Fils de Dieu est venu, et qu'ils étaient en lui, et que c'était le vrai Dieu et la vie éternelle? Les apôtres, dans leurs diverses épîtres qui ont été lus parmi vous, ne parlent-ils pas du Christ en vous, de leur condition de fils de Dieu, et du Fils de Dieu révélé en eux, avec l'Esprit du Père en eux et le Christ, le mystère en eux? N'avez-vous pas entendu ces choses lues parmi vous? Ces choses n'ont-elles pas été longtemps cachées parmi ceux qui ont la forme de la piété? Christ dans l'homme et dans la femme, Dieu habitera en vous et marchera en vous, et la parole est dans ton cœur. Le nom du Christ n'est-il pas appelé la parole de Dieu? Or ne trouvez-vous pas étrange que quelqu'un atteste ces choses et que ces choses puissent être possédées? Depuis que ces paroles ont été prononcées, la nuit de l'apostasie a été longue, pendant laquelle vous n'avez eu que la forme de la piété. Les choses dont ces paroles parlaient étaient les choses dont ils, les apôtres, jouissaient, mais maintenant ces choses sont de nouveau venues à être possédées. Qu'est-ce qui a prononcé les paroles ci-dessus, dont ceux qui, dans la longue nuit de l'apostasie, ont eu la forme depuis les jours des apôtres? Si ce qui a prononcé les paroles ci-dessus n'était pas l'Esprit de Dieu, ni l'Esprit du Père, ni l'Esprit du Christ qui parle dans l'homme, alors l'Esprit qui a prononcé ces paroles est naturel et diabolique, et un tel Esprit s'oppose à la voix du Christ et à l'Esprit de Dieu. Mais si quelque être simplement créé dit qu'il est le Christ qui parle, c'est faux, car n'est-il pas vrai que toutes les créatures ont été créées par lui et pour lui? Toutes choses qui ont été faites ont été créées pour son service par Christ Jésus, la puissance de Dieu, par laquelle toutes choses ont été faites et créées. Là où est la puissance de Dieu, là est le Christ est la puissance de Dieu. Prenez note du fait que la puissance de Dieu est éternelle, et là où la puissance de Dieu est reçue et ressentie, le Christ est reçu et ressenti, et là où la puissance de Dieu parle, le Christ parle, et vous, qui ressentez la puissance de Dieu, vous ressentez le Christ et ne serez pas offensés par la puissance de Dieu là où elle parle, ce qui est le Christ. Ainsi le Christ est un en tous ceux qui sont dans la puissance. Là où la puissance de Dieu ne règne pas et ne parle pas, la puissance du diable parle, et c'est la puissance du diable qui est tourmentée par la puissance de Dieu, qui est le Christ qui parle. Si la vérité parle, n'est-ce pas le Christ? Ne dit-il pas, « Je suis la vérité », et si la vie parle, n'est-ce pas le Christ, n'est-ce pas la vie? Si les injustes parlent, c'est une chose fausse, mais si la puissance de Dieu parle, c'est vrai. Si ce n'est pas la puissance de Dieu qui parle, qui est le vrai Christ, alors c'est le diable, qui est le faux Christ. Examinez-vous, si le Christ est en vous, alors le corps est mort à cause du péché, et là le péché est mort, et Jésus-Christ n'est-il pas en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés, et que votre péché soit encore vivant? N'est-il pas lui, l'Emmanuel Dieu avec nous et le Sauveur, et n'est-il pas le Prince de la paix, le Prince de la vie, et l'Hosanna, favorablement disposé, et cela n'est-il pas attesté au-dedans, là où il est rendu manifeste, ou bien n'est-il séparé de ces choses? N'est-il pas l'agneau de Dieu, et ne sont-ils pas contre lui, là où il est manifesté au-dedans ceux qui ne veulent pas le laisser parler et ceux qui ne veulent pas qu'il règne? Ici vous pouvez voir ce qui a été perdu depuis les jours des apôtres, ce dans quoi ils étaient et dont ils jouissaient. Dans cette nuit de l'apostasie, jusqu'à ce temps, on a eu la forme de la piété, mais non la puissance. Mais maintenant la puissance revient à être manifestée, cette puissance qui avait été perdue, cette puissance qui est la vérité, la puissance de la forme, et la vie du Christ, et le Christ lui-même, l'Emmanuel. Prenez donc garde de persécuter ce qu'il a créé et fait par sa puissance, là où la puissance est reçue et habitée à cause de la puissance qui est le Christ, et ceux en qui la puissance parle. Partout où la puissance de Dieu règne, s'il y a une faute, elle est jugée. Mais là où est la semence, elle doit être admise et reconnue. Il est injuste que la bouche de cette semence soit fermée. Dans la crainte et la douceur, pesez et considérez ces choses avant d'agir, et considérez ce qui était dans les apôtres qui les a fait souffrir. George Fox, le premier jour du 9e mois 1656 post-scriptum. Si la semence parle, laquelle semence est Christ, il n'a pas d'autre nom. Car la semence est Christ Jésus, et ce n'est pas un blasphème que quelqu'un dise que Christ parle, lorsqu'il est possédé et qu'il gouverne, mais la vérité. Mais si la semence du serpent parle et dit qu'il est Christ, celle qui parle, c'est le menteur qui parle et le blasphème, et c'est le fondement de tous les blasphèmes et ce n'est pas la semence qui est Christ. Mais la semence du serpent doit être meurtrie, ce qui est la cause de toute l'inimitié, de toute la querelle et de tout le débat avec la semence de la femme qui est Christ. Note de l'éditeur du site. Fox a dit que l'esprit qui parle à travers vous et soit Christ, soit le diable, Il n'existe pas d'esprit intermédiaire qui serait à 99% non diabolique, c'est comme être enceinte à 99%. Scripturairement, cela est corroboré par « que votre oui soit oui, et votre non, non, car tout ce qui est en plus vient du malin. » Matt 5:37. Mais je vous dis que de toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement. Matt 12:36. Tant que nous ne sommes pas purifiés, c'est l'esprit du serpent, le malin, qui parle en nous. Par conséquent, tant que nous n'avons pas Christ gouvernant notre bouche, après purification et perfection, nous devrions parler le moins possible. L'état de purification, et l'union subséquente avec Christ, a été réalisé par des dizaines de milliers de premiers Quakers au XVIII siècle. Ils prétendaient avoir le même esprit que les apôtres, qui prononçaient la parole de Dieu à partir de son esprit qui les gouvernait au-dedans d'eux. Ce site web est consacré à vous montrer comment accéder à la puissance de Dieu pour vous transformer, afin que Christ règne sur vos paroles, vos actes et même vos pensées. Après avoir été libéré de la prison de Launceston, je fus poussé par le Seigneur à voyager dans la plupart des régions de la nation, la vérité s'étant maintenant répandue et ayant été finement implantée en la plupart des lieux, afin que je puisse répondre à certaines objections et les ôter de l'esprit des gens, objections que des prêtres et des docteurs envieux avaient suscitées et répandues à notre sujet, car les prêtres disaient que nous étions les faux prophètes et les antéchrists dont Christ avait dit qu'il viendrait dans les. C'est pourquoi je fus poussé à éclaircir cela dans toute la nation et à montrer que ceux qui disaient que nous étions les faux prophètes, antéchristes et séducteurs devant venir dans les derniers jours, l'étaient en réalité eux-mêmes. Car lorsque Christ dit à ses disciples dans Matthieu 7:15, 20 et Matt 24:24 que de faux prophètes et des antéchristes viendraient dans les derniers temps et si cela était possible, tromperaient même les élus, il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, car au-dedans ce sont des loups ravisseurs, ayant des vêtements de brebis. » Et, dit-il, cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons, comme pour dire, leur nature et leur esprit seraient comme une épine ou comme un chardon, et il dit à ses disciples de ne pas les suivre. Mais avant que les disciples ne fussent décédés, les antéchrists, faux prophètes et séducteurs étaient déjà venus. Car Jean, dans sa première épître, dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure. » Ainsi comme Christ l'avait dit à ses disciples, il devait venir, les disciples virent qu'ils étaient déjà venus, comme on peut le voir largement chez Pierre, Jude, Jean et ailleurs dans l'Écriture, par quoi, dit 1 Jean 2:18, nous connaissons que c'est la dernière heure, et cette dernière heure remonte à plus de 1600 ans. Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, les faux prophètes, antéchrists, séducteurs et trompeurs sont sortis de l'Église, mais vous, dit-il à l'Église, vous avez une onction qui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et comme elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Christ dit à ses disciples, « Ne courez pas après eux, car au-dedans ce sont des loups ravisseurs, et Jean exhorte les saints à l'onction au-dedans d'eux, et le reste des apôtres exhorte les églises à la grâce, à la lumière, à la vérité, à l'esprit, à la parole de foi, et à Christ dans leur cœur, l'espérance de la gloire. » Christ dit aux saints que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, serait leur guide dans toute la vérité, et Jude exhorte l'Église à prier par le Saint-Esprit et à s'édifier sur leur très sainte foi dont Christ est l'auteur. Christ, par son serviteur Jean, exhorta les sept églises à entendre ce que l'Esprit disait aux églises et c'était une écoute spirituelle intérieure. Christ dit que les loups ravisseurs au-dedans auraient des vêtements de brebis. Paul parle de certains, en son temps, qui avaient une apparence de piété mais en reniaient la puissance. Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. Jude dit, ils marchent dans la voie de Caïn et dans celle de Balaam et de Corée. Par tout cela, on peut voir clairement que les faux prophètes et les antéchrists, dont Christ avait prédit la venue, les apôtres les virent venir, et en leur temps c'était la dernière heure. Ceux-ci s'en allèrent d'avec eux dans le monde, et le monde les suivit. Ceux-ci furent les meneurs, les chefs du monde, qui les conduisirent à une forme de piété, mais au-dedans ils étaient ravis loin de la puissance et de l'esprit. Ceux-ci ont les vêtements de brebis, les paroles de Christ, des prophètes et des apôtres, mais au-dedans ils sont ravis loin de la puissance et de l'esprit dans lesquels étaient ceux qui ont produit les Écritures. Ceux-ci ont constitué la bête et la prostituée, ceux-ci ont obtenu la puissance du dragon, la puissance meurtrière, destructrice, persécutrice, et ce sont eux que le monde admire. Ceux-ci ont bu le sang des martyrs, des prophètes et des saints, et ont persécuté la vraie Église jusque dans le désert. Ceux-ci ont établi de faux cultes contraignants, et ont bu le sang des saints qui ne veulent pas boire à leur coupe. Ceux-ci ont fait la cage pour les oiseaux impurs qui y ont leurs divers cris impurs, cage faite par la puissance des ténèbres et un esprit impur, et les oiseaux de la cage nient le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, dans lesquels étaient les apôtres, qui doivent maintenant se manifester dans les saints. Ainsi, depuis que Christ a dit que les faux prophètes et les antéchrists viendraient, et que l'apôtre a dit qu'ils étaient venus, le culte de la bête et du dragon a été établi. La prostituée s'est élevée avec ses faux prophètes, sa cage a été faite, toutes les nations ont bu à sa coupe de fornication, ils ont bu le sang des martyrs et des saints, et la vraie Église s'est enfuie dans le désert. Tout cela s'est produit depuis les jours des apôtres. Pourtant les aveugles séducteurs de toutes sortes, les antéchrists et faux prophètes de notre âge, voudraient nous faire croire, à nous et aux gens, que les faux prophètes, antéchrists et séducteurs ne viennent que maintenant, alors que Jean et d'autres apôtres nous disent qu'ils ont commencé à venir il y a plus de 1600 ans. Et vous pouvez voir quel ouvrage et quelle confusion ils ont produite dans le monde, combien de sang ces Caïns ont bu, qui ont marché dans la voie de Caïn, sang qui crie à Dieu pour la vengeance sur la chrétienté. Et comment ces Balaam, qui se sont égarés loin de la puissance et de l'esprit dans lesquels étaient les apôtres, ont convoité les biens d'autrui, comme en témoignent les nombreuses prisons, tribunaux et spoliations de biens. Et comment ces Corées ont nié la vie, la puissance et l'esprit dans lesquels étaient les apôtres et la vraie Église, ainsi que l'enseignement gratuit de Christ et de ses apôtres, et le travail de leur ministère, qui était de présenter tout homme parfait en Christ Jésus. C'est pourquoi, au nom et dans la puissance du Seigneur Jésus, je fus envoyé pour prêcher de nouveau l'Évangile éternel, qui avait été prêché auparavant à Abraham et au jour des apôtres, et qui devait aller dans toutes les nations et être prêché à toute créature. Car de même que l'apostasie a parcouru toutes les nations depuis les jours des apôtres, au point que les nations sont devenues comme des eaux, instables, s'étant éloignées de Christ, le fondement, ainsi l'Évangile, la puissance de Dieu, doit parcourir de nouveau toutes les nations. Nous trouvons que les faux prophètes, antéchrist, séducteurs, la prostituée, la fausse église, la bête et son culte dans la puissance du dragon se sont élevés dans les temps entre les apôtres et nous. Car Christ a dit, ils viendraient, et les apôtres virent qu'ils étaient venus et venaient en leur jour, et qu'ils étaient sortis du milieu d'eux, et que le monde les avait suivis. Maintenant le Seigneur nous a suscités au-delà d'eux et nous a établis au-dessus de dans l'Évangile éternel, la puissance de Dieu, afin que comme tous ont été obscurcis par la bête, la prostituée, les faux prophètes et les antéchrists, ainsi l'Évangile éternel soit de nouveau prêché par nous à toutes les nations et à toute créature, ce qui mettra en lumière en eux la vie et l'immortalité, afin qu'ils puissent voir au-dessus du diable et de ses faux prophètes antéchrists séducteurs et trompeurs, et au-dessus de la prostituée et de la bête, et revenus. Ce message de l'Évangile glorieux et éternel, je fus envoyé pour le déclarer et le publier, et par lui vous êtes ramenés à Dieu, l'ayant reçu, et vous êtes venus sous sa soumission et dans son saint ordre. Et depuis que j'ai déclaré ce message dans cette partie du monde et en Amérique, et que j'ai écrit des livres du même pour le répandre universellement, les prophètes, prédicateurs et trompeurs aveugles ont cessé de nous dire que les faux prophètes devaient venir dans les derniers temps, car une grande lumière a surgi et brille au-dessus de leur tête, si bien que chaque enfant dans la vérité voit la folie de leurs propos. Alors ils trouvèrent d'autres objections contre nous, et inventèrent des échappatoires pour se sauver du coup de la vérité. Car lorsque nous les blâmions de percevoir les dîmes, qui venaient de la tribu de Lévi et furent établis ici par l'Église romaine, ils plaidaient que Christ avait dit aux scribes et aux pharisiens qu'ils devaient payer la dîme de la mène, de l'aliment et du cumin, bien qu'ils négligent les choses les plus importantes, et que Christ avait dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Et quand nous leur disions qu'ils étaient des prêtres envieux et persécuteurs, ils répondaient, que certains prêchaient Christ par envie, d'autres par esprit de dispute, et d'autres de bonne volonté. Or, ces Écritures et d'autres semblables, ils les utilisaient pour confondre leurs auditeurs et pour les persuader, eux et nous, que nous devions faire comme ils disent, bien qu'ils fussent eux-mêmes comme les pharisiens, et que nous devions nous réjouir lorsque des hommes envieux et des hommes de crêle prêchaient Christ, et que nous devions leur donner les dîmes comme les Juifs le faisaient à la tribu de Lévi. Cela sonnait bien en surface, mais n'était qu'un grand tas de balles sans grain. Or telle était leur cécité, car le sacerdoce lévitique, Christ l'a terminé, et il a aboli le commandement qui leur donnait les dîmes, ainsi que la loi par laquelle ces prêtres étaient établis. Christ ne venait pas de l'ordre lévitique, et il n'a pas non plus envoyé ses ministres selon cet ordre, car ceux de cet ordre devaient prendre des dîmes pour leur entretien, mais Christ a envoyé ses ministres gratuitement. Et quant au fait d'écouter les pharisiens et les juifs payer la dîme de la mende, de l'aliment et du cumin, c'était avant que Christ ne fût sacrifié et n'accomplît la loi. Les Juifs devaient alors observer la loi et accomplir leurs offrandes et sacrifices comme les prêtres juifs l'avaient enseigné. Mais après que Christ eut été offert, Christ ordonna à ses disciples « Allez dans toutes les nations et prêchez l'Évangile, et voici, dit-il, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, et ailleurs il dit, je serai en vous. » Il ne leur dit donc pas d'aller alors écouter les pharisiens et de payer alors la dîme de la mende, de l'aliment et du cumin, Mais allez, prêchez l'Évangile, et croyez au Seigneur Jésus et soyez sauvés, et recevez l'Évangile, qui détournerait les gens des Juifs, des dîmes, de la loi lévitique et de ses offrandes, pour les amener à Christ, l'unique offrande, faite une fois pour toutes. Oh, quel travail l'apôtre eut tant avec les Galates qu'avec les Romains pour les détourner de la loi vers la foi en Christ. Et quant à la parole de l'apôtre, certains prêchaient Christ par envie et par esprit de dispute. C'était au début de la diffusion du nom de Christ au dehors, quand il risquait non seulement d'être exclu des synagogues, mais d'être lapidé à mort, quiconque confessait le nom de Jésus, comme on le voit par les tumultes parmi les Juifs et les adorateurs de Diane à la prédication de Christ. Ainsi l'apôtre pouvait bien se réjouir si, à ce moment-là, les envieux et les hommes de querelle et de dispute prêchaient Christ, quoiqu'ils pensassent ainsi ajouter de l'affliction à ses chaînes. Mais ensuite, lorsque le nom de Christ s'était répandu, et que beaucoup avaient acquis une forme de piété tout en reniant la puissance, des hommes envieux, orgueilleux, crêleurs, des hommes de dispute, des hommes cupides, des docteurs pour un gain honteux, l'apôtre ordonna aux saints de s'en détourner et de n'avoir aucune communion avec eux. Et les diacres et ministres devaient d'abord être éprouvés pour voir s'ils étaient dans la puissance de la piété et si le Saint-Esprit les avait établis surveillants et prédicateurs. Ainsi on peut voir comment les prêtres ont abusé de ces écritures pour leurs propres fins et les ont tordues pour leur propre perdition, afin de justifier des hommes envieux, crêleurs et des hommes de dispute. Alors que l'apôtre dit « L'homme de Dieu doit être patient et propre à enseigner, et il devait suivre Christ, comme il les avait pour exemple. » L'apôtre fut en effet très tendre envers les gens, tant qu'il les voyait marcher dans la simplicité, comme dans le cas de ceux qui étaient scrupuleux au sujet des aliments et des jours. Mais quand l'apôtre vit que certains les entraînaient dans l'observation des jours et les y établissaient, il les reprit alors sévèrement et leur demanda « Qui vous a ensorcelé ?» De même, concernant le mariage, il fut flexible afin que leurs esprits ne soient pas détournés de l'union du Seigneur, mais lorsqu'ils en vinrent à interdire le mariage et à établir des règles pour les aliments et les boissons, il appela cela une doctrine de démon et un « égarement loin de la vraie foi ». De même encore, il fut tendre au sujet de la circoncision, et par tendresse en laissa certains se faire circoncire, mais lorsqu'il vit qu'ils voulaient en faire une secte et établir la circoncision comme pratique permanente, il leur dit clairement, s'ils se faisaient circoncire, Christ ne leur servirait de rien. La même manière, il fut tendre au sujet du baptême d'eau, mais quand il vit qu'ils commençaient à faire des sectes à ce sujet, les uns se réclamant de Paul, les autres d'Apollo, il les jugea et les appela charnels, et rendit grâce à Dieu de n'avoir baptisé que très peu de personnes, déclarant clairement qu'il avait été envoyé pour prêcher l'Évangile et non pour baptiser. Et il les conduisit au seul baptême par le seul esprit, dans le seul corps dont Christ, l'homme spirituel, est la tête. Il exhorta l'Église à boire tous à ce seul esprit. Car il affirma dans l'Église la seule foi dont Christ était l'auteur, et un seul baptême, celui de l'esprit dans un seul corps, et un seul Seigneur Jésus-Christ, qui était le baptiseur spirituel, celui dont Jean avait dit qu'il viendrait après lui. Et en outre l'apôtre déclara que ceux qui adoraient et servaient Dieu en esprit étaient de la circoncision de l'esprit, non faite de main d'homme, par laquelle le corps des péchés de la chair était dépouillé, circoncision dont Christ est le ministre. Une autre grande objection qu'ils avaient, c'était que les Quakers niaient le sacrement, comme ils l'appelaient, du pain et du vin, lequel, disaient-ils, ils devaient prendre et faire en mémoire de Christ jusqu'à la fin du monde. Nous eûmes beaucoup à faire avec les prêtres et les docteurs à ce sujet, et au sujet des diverses manières de le recevoir dans la chrétienté, ainsi appelée, car certains le prennent agenouillé, d'autres assis, mais aucun d'entre eux, de tout ce que j'ai pu trouver, ne le prend comme les disciples l'ont pris. Car ils l'ont pris dans une chambre après le souper, mais ceux-ci le prennent généralement avant le dîner, et certains disent qu'après que le prêtre l'a béni, c'est le corps de Christ. Mais quant à la chose, Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il ne leur a pas dit à quelle fréquence ils devaient le faire, ni pendant combien de temps, il ne leur a pas non plus dit de le faire toujours tant qu'ils vivraient, ni que tous ceux qui croiraient en lui le feraient jusqu'à la fin du monde. L'apôtre Paul, qui ne fut converti qu'après la mort de Christ, dit aux Corinthiens qu'il avait reçu du Seigneur ce qu'il leur avait transmis à ce sujet, et il rapporte ainsi les paroles de Christ concernant la coupe. « Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi », et lui-même ajoute, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ainsi, selon ce que l'apôtre transmet ici, ni Christ ni lui n'ont enjoint aux gens de faire cela toujours, mais le laissent à leur liberté, « Toutes les fois que vous en boirez, etc. » Les Juifs avaient coutume de prendre une coupe, de rompre le pain et de le partager parmi eux dans leur festin, comme on peut le voir dans les antiquités juives, de sorte que la fraction du pain et la consommation du vin étaient des rites juifs qui ne devaient pas durer toujours. Ils baptisaient aussi avec de l'eau, ce qui ne leur paraissait donc pas étrange lorsque Jean-Baptiste vint avec son ministère décroissant du baptême d'eau. Mais quant au pain et au vin, après que les disciples l'eurent pris, certains d'entre eux se demandèrent si Jésus était le Christ. Car certains dirent, après qu'il eût été crucifié, « Nous espérions que c'était lui qui devait racheter Israël. » Et bien que les Corinthiens aient eu le pain et le vin et aient été baptisés d'eau, l'apôtre leur dit qu'ils étaient réprouvés, le péché vit encore en eux, si Christ n'était pas en eux, et il leur ordonna de s'examiner eux-mêmes. Et comme l'apôtre dit, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi Christ avait dit auparavant qu'il était le « pain de vie qui est descendu du ciel » et qu'il viendrait et demeurait en eux, ce dont les apôtres rendirent témoignage comme accompli, et exhortèrent d'autres à chercher ce qui descend d'en haut, mais le pain et le vin extérieur et l'eau ne viennent pas d'en haut mais d'en bas. Or vous qui mangez et buvez ce pain et ce vin extérieur en mémoire de la mort de Christ, et qui avez vos communions en cela, ne vous approcherez-vous pas davantage de la mort de Christ que de prendre du pain et du vin en mémoire d'elle, après avoir mangé en mémoire de sa mort? Vous devez entrer dans sa mort et mourir avec lui, comme l'ont fait les apôtres, si vous voulez vivre avec lui. C'est un état plus proche et plus avancé, être avec lui dans la communion de sa mort, plutôt que de ne prendre que du pain et du vin en mémoire d'elle. Vous devez avoir communion avec Christ en ses souffrances, 1 Pie 4, 12-13. Si vous voulez régner avec lui, vous devez souffrir avec lui, 2 Tim 2, 12. Si vous voulez vivre avec lui, vous devez mourir avec lui, 2 Tim 2, 11. Et si vous mourrez avec lui, vous devez être enseveli avec lui, Rome 6, 4. Et étant enseveli avec lui dans le vrai baptême, vous ressuscitez aussi avec lui, Col 2, 12, F 2, 6. Puis ayant souffert avec lui, étant mort avec lui et ayant été enseveli avec lui, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mangez le pain qui descend d'en haut, qui n'est pas un pain extérieur, et buvez la coupe du salut qu'il donne dans son royaume, qui n'est pas un vin extérieur. Alors il n'y aura plus de regard porté sur les choses visibles, comme le pain, le vin et l'eau extérieure, car l'apôtre dit, « Les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. » Ainsi il y a de nombreux états et conditions à traverser avant que les gens n'en viennent à voir et à participer à ce qui descend en haut, car premièrement, il y eut la prise du pain et du vin extérieur en mémoire de la mort de Christ. Cela était temporaire et non nécessaire, mais laissé à leur liberté, toutes les fois que vous le faites. Deuxièmement, il doit y avoir l'entrée dans sa mort, la souffrance avec Christ, et cela est nécessaire au salut, et non pas temporaire mais continuel, il faut mourir chaque jour. Troisièmement, être enseveli avec Christ. Quatrièmement, ressuscité avec Christ. Cinquièmement, après être ressuscité avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut, cherchez le pain qui descend du ciel, et s'en nourrir et avoir communion en cela. Car le pain, le vin et l'eau extérieure viennent d'en bas, et sont visibles et temporaires, mais, dit l'apôtre, nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Ainsi la communion qui se tient dans l'usage du pain, du vin, de l'eau, de la circoncision, du temple extérieur et des choses visibles aura une fin. Mais la communion qui se tient dans l'Évangile, la puissance de Dieu, qui existait avant que le diable fût, et qui met en lumière la vie et l'immortalité, par laquelle les gens peuvent voir au-dessus du diable qui les a obscurcis, cette communion est éternelle et subsistera. Et tous ceux qui sont dans la vraie communion cherchent ce qui est céleste et éternel, qui descend en haut, et sont établis dans le mystère éternel de la communion de l'Évangile, qui est caché à tous les yeux qui ne regardent que les choses visibles. L'apôtre dit aux Corinthiens, qui étaient en désordre au sujet de l'eau, du pain et du vin, qu'il les désirait ne savoir rien parmi eux sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Thus were the objections which the priest and professor had raised against friend answered, and the stumbling block they had led in the way of the weak removed. And as things were thus opened, people came to see over them and through them, and to have their minds settled upon the Lord Jesus Christ, that their free teacher, which was the service for which he was moved to travel over the nation, after me in prison me in Launceston jail. In this year the Lord's truth was finally planted over the nation, and many thousands were turned to the Lord, so much so that there were seldom fewer than 1,000 Quakers in prison in this nation for truth's testimony, some for tithe, some for going to the steeple, some for content as they called them, some for not swearing, and others for not putting off their hats, etc. After he had visited most part of the nation, and was come to London again, finding a evil spirit at work which had drawn James Naylor and his followers out from truth, to run Friend into hits about him, he wrote a short epistle to Friend as follows, à toute la semence élue de Dieu appelée Quakers, là où la mort est amenée dans la mort, et où l'aîné est serviteur du plus jeune, et où l'élu est connu, lequel ne peut être trompé mais obtient la victoire. Voici la parole du Seigneur Dieu pour vous tous, ne sortez pas du côté de l'aggravation, pour vous y créler hors de la puissance de Dieu, de peur de vous nuire à vous-mêmes et de tomber dans la même nature, hors de la vie. car la patience doit obtenir la victoire et répondre à ce qu'il y a de Dieu en chacun, la patience doit amener chacun à cela, afin de les tirer de ce qui est contraire. Que votre modération, votre tempérance et votre patience soient donc connues de tous les hommes dans la semence de Dieu. Car un message sans vie, qui atteint la part d'aggravation chez les autres, n'éveille que la part d'aggravation et engendre la confusion. Il a une vie dans la dispute extérieure, mais n'atteint pas le témoin de Dieu en chacun, par lequel il pourrait venir à la paix et à l'alliance avec Dieu, et à la communion les uns avec les autres. Par conséquent, ce qui atteint ce témoin de Dieu en vous-même et chez les autres, c'est la vie et la lumière, cela survivra à tout, est au-dessus de tout, et vaincra tout. Vivez donc dans la semence de vie qui meurtrit la semence de mort. George Fox, j'écrivis une autre courte épître aux amis, pour les encourager à maintenir leur réunion dans la puissance du Seigneur. En voici le texte, « Chers amis, maintenez vos réunions dans la puissance du Seigneur, cette puissance est au-dessus de tout ce qui vit dans la chute et doit avoir une fin. Soyez donc sages dans la sagesse de Dieu, qui vient d'en haut, par laquelle toutes choses ont été faites et créées, afin que cette sagesse soit justifiée parmi vous, et que vous soyez tous gardés dans la vie solide, qui existait avant que la mort fût, et dans la lumière qui existait avant que les ténèbres fussent avec toutes leurs œuvres. Dans cette lumière et cette vie, vous pouvez tous sentir et avoir l'unité et la paix céleste, possédant la communion de l'Évangile qui est éternelle, laquelle existait avant ce qui ne dure pas à jamais et demeurera quand cela aura disparu. Car l'Évangile, étant la puissance de Dieu, est pur et éternel. Sachez qu'il est votre part, en lui se trouve la stabilité, la vie et l'immortalité, brillant au-dessus de ce qui obscurcit le mortel. Soyez donc fidèles, chacun à Dieu, selon la mesure de sa puissance et de sa vie qui vous est donnée, afin de répondre à l'amour et à la miséricorde de Dieu envers vous, comme des enfants obéissant du trésor, demeurant dans l'amour, l'unité, la paix et l'innocence de cœur les uns envers les autres, afin que Dieu soit glorifié en vous, et que vous soyez gardés comme des témoins fidèles pour lui et vaillants pour la vérité sur la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous préserve tous pour sa gloire, afin que vous ressentiez sa bénédiction au milieu de vous et que vous en soyez les possesseurs. George Fox, à cette époque, beaucoup de bouches s'étaient ouvertes dans nos réunions pour déclarer la bonté du Seigneur. Certaines déclarations venaient de ceux qui étaient jeunes et tendres dans la vérité, et qui prononçaient parfois quelques paroles d'action de grâce et de louange à Dieu. Afin qu'aucun désordre n'en acquît dans nos réunions, je fus poussé à écrire une épître aux amis, sous forme de conseil à ce sujet, à tous mes chers amis dans la noble semence de Dieu, qui avaient connu sa puissance, sa vie et sa présence au milieu de vous, qu'il soit votre joie d'entendre ou de voir les sources de la vie jaillir en quelqu'un, par elle vous avez tous l'unité dans le même sentir, la même vie et la même puissance. Et surtout, prenez garde à ne juger personne ouvertement dans vos réunions, à moins qu'il ne soit ouvertement profane ou rebelle, de ceux qui sont hors de la vérité, afin que par la puissance, la vie et la sagesse vous puissiez vous tenir au-dessus d'eux, et par elle répondre au témoignage de Dieu dans le monde, que ceux contre qui vous portez votre témoignage ne sont aucun de vous, de sorte qu'en cela la vérité demeure claire et sans mélange. Mais pour ceux qui sont tendres, s'il leur arrive d'être poussés à laisser jaillir quelques mots et à parler dans la semence et dans la puissance de l'agneau, supportez et portez cela, c'est-à-dire ceux qui sont tendres. Et s'ils devaient dépasser leur mesure, supportez-le dans la réunion pour la paix et l'ordre, et afin que les esprits du monde ne soient pas excités contre vous. Mais quand la réunion est terminée, si quelqu'un est poussé à leur parler, entre vous et eux, qu'un ou deux d'entre vous, qui le ressentent dans la vie, le fassent dans l'amour et dans la sagesse pure et douce qui viennent d'en haut. Car l'amour édifie, supporte toute chose, endure longtemps et accomplit la loi. Ainsi en cela, vous avez l'ordre et l'édification, vous avez la sagesse pour vous conserver tous sages et dans la patience, qui ôte l'occasion de faire trébucher les faibles, et ôte l'occasion aux esprits du monde de se lever, mais dans la semence royale, la pierre pesante, vous maintenez en bas tout ce qui est mauvais, et par elle vous répondez à ce qu'il y a de Dieu en tout, et vous maintenez en bas le mauvais. Car vous entendrez, verrez et sentirez la puissance de Dieu prêcher, puisque votre foi est entièrement en elle, quand vous n'entendez pas de parole, pour l'y enchaîner, limiter, frustrer, afin que rien ne s'élève ni ne sorte sinon ce qui est dans la puissance, car avec elle vous retiendrez, avec elle vous relâcherez et ouvrirez chaque source, plante et étincelle, en quoi seront votre joie et votre rafraîchissement dans la puissance de Dieu. Vous qui connaissez la puissance de Dieu et y êtes parvenus, laquelle est la croix de Christ, qui vous crucifie à l'état d'Adam et Ève dans la chute, et ainsi au monde, par cette puissance de Dieu vous en venez à voir l'état dans lequel Adam et Ève étaient avant leur chute. Laquelle puissance Dieu est la croix, en laquelle se tient la gloire éternelle, qui fait monter dans la justice la sainteté et l'image de Dieu, et crucifie à l'injustice l'impiété et l'image de Satan, dans lesquelles Adam et Ève et leurs fils et leurs filles sont sous la chute. Par cette puissance de Dieu vous en venez à voir l'état où ils étaient avant leur chute, oui, et je dis à un état plus élevé, à la semence Christ, le second Adam, par qui toutes choses ont été faites. Car l'homme a été chassé loin de Dieu, Tous les fils et filles d'Adam et Ève, étant dans l'état de la chute sur la terre, sont chassés loin de Dieu. Mais il est dit, l'Église est en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi ceux qui viennent à l'Église, qui est en Dieu le Père de Christ, doivent revenir à Dieu, et ainsi sortir de l'état déchu d'Adam et de ses enfants dans la chute, hors de l'image de Dieu, hors de la justice et de la sainteté, et ils doivent entrer dans la justice, dans la vraie sainteté, l'image de Dieu, et ainsi sortir de la terre où l'homme a été chassé, quand ils viennent à l'Église qui est en Dieu. Le chemin vers cela est Christ, la lumière, la vie, la vérité, le Sauveur, le Rédempteur, la sanctification et le Justificateur, en est par la puissance, la lumière et la vie duquel la conversion, la régénération et la translation sont connues, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu de nouveau. Ce sont des membres de la vraie Église, qui connaissent l'œuvre de régénération dans son opération et son ressenti, et, étant parvenus à être membres de l'Église de Dieu, ils sont en effet membres les uns des autres dans la puissance de Dieu, qui existait avant la puissance des ténèbres. Ainsi ceux qui viennent à l'Église qui est en Dieu et en Christ doivent sortir de l'état où Adam était après la chute, chassé loin de Dieu, pour connaître l'état où il était avant de tomber. Mais ceux qui vivent dans l'état où Adam était après la chute, et ne peuvent croire possible d'entrer dans l'état où il était avant de tomber, ne viennent donc pas à l'Église qui est en Dieu, mais ils en sont loin, n'étant pas passés de la mort à la vie, au contraire, ils sont ennemis de la croix de Christ, qui est la puissance de Dieu. Tâchent aux choses terrestres et ne servent pas Christ. Ils n'aiment pas non plus la puissance qui devrait les faire monter à l'état où Adam est avant sa chute et les crucifier à l'état où l'homme est après la chute, afin que par cette puissance ils puissent voir l'origine, la puissance dans laquelle l'homme est avant que l'image céleste, la sainteté et la justice fussent perdues, par laquelle puissance ils pourraient parvenir à connaître la semence Christ, qui fait sortir des choses anciennes et rend toutes choses nouvelles, en laquelle la vie éternelle est ressentie. Car toute la pauvreté, le vide et la stérilité sont dans l'état de l'homme dans la chute, hors de la puissance de Dieu, par laquelle puissance il est rendu riche de nouveau, et en laquelle il retrouve de la force, laquelle puissance est la croix, dans laquelle se tient le mystère de la communion, et en laquelle est la vraie gloire, qui crucifie à toutes les autres gloires. Et amis, bien que vous ayez pu être convaincus, et avoir goûté à la puissance et senti la lumière, toutefois ensuite vous pouvez sentir une tempête d'hiver, l'orage et la grêle, le givre et le froid, et la tentation dans le désert. Soyez patients et tranquilles dans la puissance et dans la lumière qui vous convainquent pour garder vos esprits tournés vers Dieu. En cela, soyez calmes afin d'arriver à l'été, que votre fuite ne soit pas en hiver. Car si vous restez tranquilles dans la patience qui triomphe dans la puissance de Dieu, il n'y aura pas de fuite. Le laboureur, après avoir semé sa semence, est patient. Et vous, étant gardés dans la patience par la puissance, vous en viendrez par la lumière à voir au travers des tempêtes d'hiver, des orages et de tout le froid, la stérilité et le vide, et la même lumière et la même puissance passeront au-dessus de la tête du tentateur, puissance et lumière qui existaient avant qu'il fût. Ainsi, tenant ferme dans la lumière, vous verrez votre salut, vous verrez la force du Seigneur, vous sentirez la petite pluie, vous sentirez les sources fraîches, vos esprits étant maintenus bas dans la puissance et la lumière, car ce qui est hors de la puissance s'élève. Mais dans la puissance et la lumière vous sentirez Dieu, révélant ses secrets, inspirant vos esprits, et ses dons venant à vous, par quoi vos cœurs seront remplis de l'amour de Dieu et de louange à celui qui vit au siècle des siècles, car c'est dans sa lumière et sa puissance que sa bénédiction est reçue. Ainsi que la puissance éternelle du Seigneur Jésus-Christ vous préserve et vous garde, et vivez chacun dans la puissance de Dieu afin que vous puissiez tous en venir à en être héritiers, et savoir quelle est votre part, oui, le royaume qui n'a pas de fin, et la vie sans fin dont la semence est héritière. Sentez donc cela établi au-dessus de tout, ayant la promesse et la bénédiction de Dieu à jamais. George Fox. À cette époque, je reçus quelques lignes d'un docteur aux accents grandiloques concernant la voix de Christ, à quoi je renvoyai la réponse suivante : « Amis, ce ne sont pas les circonstances que nous contestons, mais la voix de Christ et sa lumière, qui ne font qu'un, bien que le monde ait imaginé bien des voix, tout hors de la lumière, par lesquelles la lumière est condamnée. Celui qui a prêché cette lumière a dit : Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Il en est de même aujourd'hui pour ceux qui connaissent la vérité, bien que le monde entier gise dans la méchanceté. Toutes les dispensations et différences qui ne sont pas une dans la lumière, nous les nions, et par la lumière qui était avant la séparation, nous voyons qu'elles sont des autoséparations dans le sensuel, n'ayant pas l'esprit. Leurs fruits et leurs fins sont pesés dans la balance juste, et trouvés dans les ténèbres, c'est le voici, et le voilà dont vous parlez, et la présence de Christ n'est pas avec eux bien que l'aveugle ne le voie pas, car il ne voit pas avec l'œil pur, qui est simple, mais avec les nombreux yeux, qui mènent aux nombreuses voies. Nul n'est du peuple de Dieu sinon ceux qui sont baptisés dans ce principe de lumière, principe par lequel tous les fidèles serviteurs du Seigneur ont toujours été conduits à toutes les époques, depuis l'apostasie et auparavant. Car l'apostasie était et est un éloignement de la lumière, et tous ceux qui s'opposent à la lumière sont des apostats. Ceux qui contestent de nouveau la vérité en sont les ennemis et ne sont pas mus par l'esprit, mais ont une autre voie que la lumière. Tous ceux-là sont dans le monde, ses paroles, ses modes et ses coutumes, bien qu'ils aient diverses formes quant à leur culte, pourtant ils sont tous sous le Dieu de ce monde, s'opposant à la lumière et à l'apparition de Christ, qui devrait conduire hors de son pouvoir, quelle que soit leur forme, cependant ils sont tous ligués contre la lumière. Tous ceux-là sont du monde, et ils combattent contre ceux qui ne sont pas du monde, mais qui sont rassemblés et se rassemblent hors du monde, ainsi en a-t-il toujours été contre le peuple de Dieu, sous quelque nom que ce soit. Ils ne sont saints que par vocation, ceux qui sont appelés dans la lumière, et fils de Sion, qui ne s'écartent pas de la lumière à laquelle l'Esprit est promis, et qui n'est lié à aucune forme hors de la lumière, et c'est là que tous héritent, eux qui sont cohéritiers avec Christ, chose dont beaucoup parlent, eux qui héritent de l'élément terrestre au lieu du céleste. Et tandis que vous dites que Christ et ses apôtres se revêtaient des paroles et des dits des prophètes, et qu'ils sont votre exemple en cela, je dis que les loups prendront la toison des brebis, mais la lumière et la vie les démasquent et jugent, non par leurs paroles dérobées, mais par leurs œuvres. Christ non plus ne s'est pas couvert de paroles, sinon de celles qui étaient accomplies en lui, et aucun de ceux de Christ ne se glorifie des lignes d'autrui, préparées sans eux, règle à laquelle si vous obéissiez, on verrait moins de paroles et plus de vie parmi vous. Alors vous ne trouverez pas étrange de réduire au silence la chair, et d'entendre ce qu'a dit celui qui parle la paix, afin que son peuple ne retourne plus à la folie. Si vous savez une fois que ce qui est volé doit être restitué au quadruple, la bouche du faux prophète sera fermée, lui qui bâtit dans la tromperie mais non dans la justice. Et là où vous dites, l'esprit de vérité n'offre rien que des variétés sans fin, je dis, vous ne connaissez pas l'esprit de vérité, car l'esprit de vérité a dit, une seule chose est nécessaire et redire la même chose est sûr pour ceux qui écoutent, mais cet esprit qui n'offre rien que des variétés sans fin n'est pas l'esprit de vérité, il s'est égaré dans des notions curieuses, et le nombre de ses noms et de ses couleurs ne se lit nulle part sinon dans l'unité de l'esprit de vérité. Tous les autres appellent la vérité tromperie, et la tromperie vérité, comme les aveugles qui se sont toujours opposés à la lumière, eux qui apprennent sans cesse des variétés sans fin, mais ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité ni à la fin de leur labeur, car lorsqu'ils sortent d'une forme, ils entrent dans une autre, tant qu'ils peuvent trouver dehors un arbre vert. Ainsi vous êtes tenus à l'ouvrage toute votre vie, et jusqu'à la tombe dans la tristesse, comme les prêtres muets dont vous parlez l'ont été avant vous, seulement vous avez obtenu une image plus fine, mais moins de vie. Et vous, dont l'enseignement n'a point de fin, vous êtes dans le manège dont vous parlez. J'ai lu les épîtres à Timothée et aux Hébreux, et j'y trouve que le devoir de tous les croyants est de veiller à la loi de la nouvelle alliance écrite dans le cœur, afin que tous puissent connaître Dieu, du plus petit au plus grand. Je sais que les saintes écritures sont utiles à l'homme de Dieu, mais qu'est-ce là pour l'homme de péché, pour le premier-né, qui est hors de la lumière, et qui, étant instable et sans instruction, les tord pour sa propre destruction, mais ne peut venir à la vie. Et quant à vos deux ordonnances dont vous parlez, je dis, pour la même raison que vous niez les prêtres du monde en cela, nous vous nions, car vous êtes l'un et l'autre non seulement hors de la vie, mais même hors de la forme. Ce commandement Matt 28-19, vous ne l'avez jamais eu ni sa puissance, laquelle était baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce que Paul a reçu du Seigneur, ce corps et ce pain, vous n'en savez pas davantage que ce que vous en avez lu. Et vous, qui ne croyez pas en sa lumière, vous ne savez rien non plus de la venue de Christ. Et tandis que vous parlez de prêcher Christ par envie, et que vous le défendez, je dis, nous avons assez de tels prédicateurs en ces jours. Que faites-vous d'autre, vous qui dites que Paul a été envoyé pour baptiser, alors que Paul dit qu'il ne l'a pas été, ainsi vous voudriez le prouver menteur, si quelqu'un vous croyait plutôt que lui. Vous dites aussi, pour tout ce que vous en savez, il a peut-être baptisé des milliers. Vous auriez pu aussi bien dire des millions, et l'auriez prouvé tout aussi vite. Vous pouvez dire la même chose de la circoncision aussi, et sur le même fondement. Quant aux signes qui suivaient ceux qui croyaient, que vous dites avoir cessé, je dis que ceux qui ne peuvent recevoir la lumière ne peuvent voir les signes. S'ils pouvaient les voir, ils ne les croiraient pas et les calomnieraient probablement, tout comme ceux qui s'opposaient à la lumière dans les siècles passés ne pouvaient les croire. D'ailleurs, vous pouvez dire que quelque chose a cessé si votre connaissance de cette chose repose uniquement sur le fait de l'avoir entendue ou lue. Mais là où, en mesure, Christ est reçu dans la lumière, je nie que la puissance, les signes et la présence de Dieu ne soient pas les mêmes que de tout temps, et je déclare cela faux, et venant d'un esprit qui ne connaît ni Dieu ni sa puissance. Et quant au fondement de l'Évangile dont vous parlez, je dis qu'il doit être reposé dans le monde entier. Vous n'avez jamais été sur le vrai fondement, depuis que l'homme de péché a établi ses faux fondements formes sans puissance, jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître la lumière de Christ que les saints ont prêchée, et reconnaître leur vie et leurs pratiques, par honte, cesser de parler de leurs fondements, ou de leur œuvre glorieuse, ou des secousses et tremblements. Ce sont les expériences des saints que le monde ne connaît ni ne reconnaît, et vous ne pouvez lire nulle part que quelqu'un, sans ces expériences, ait jamais déclaré comment il connaissait Dieu ou recevait sa parole. Dans votre exhortation, vous me commandez, l'aimer Christ partout où je le vois. Mais m'avez-vous dit où l'on pourrait venir à le voir, ou comment on pourrait le connaître? Vous avez montré plus de chrétiens dans cette parole que dans tout le reste de ce que vous avez dit. Mais il semble que vous ne soyez pas tous d'un même avis. Certains d'entre vous disent, il est parti, et on ne le verra plus jusqu'au jour du jugement. Mais si jamais vous venez à voir Christ pour votre consolation, tandis que vous vous opposez à sa lumière, alors Dieu n'a pas parlé par moi. Vous vous en souviendrez quand votre temps sera consumé. George Fox Back Next.